écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Voici arrivée notre dernière émission pour 2016. Son thème, Écho du monde. Cette émission a lieu à la veille des fêtes de fin d'année, le solstice d'hiver, le 24 décembre, le nouvel an. Elle sera une émission unique pour vous, pour nous. 12 auteurs cités, dont 4 sont déjà intervenus dans cette émission depuis 5 ans. Des textes, lus par Anna ou par moi-même, des chants, des musiques. Et en cette fin d'année, je voudrais commencer cette émission en votre nom et en mon nom, pour remercier Agora Côte d'Azur et de citer plus précisément un commentaire de l'un de vous, auditeurs. Agora, dit-il, c'est un vent, c'est un souffle unique que l'on retrouve sur aucun média national. Les enfants, l'enfance, seront mis en valeur ce soir, mais aussi la sagesse et l'amour. Enfance, sagesse, amour guideront donc notre voyage dans le monde, sans oublier un quatrième mot que vous allez découvrir, il va vous surprendre sans aucun doute, en écoutant cette émission et dans le cadre de la deuxième séquence. Enfance, c'est l'étape première de la vie, elle fonde et colore toutes les autres étapes, elle se reconnaît dans l'émerveillement, la spontanéité et bien d'autres valeurs que bien trop souvent la vie dite adulte érode, voire même évacue. La sagesse, nous dit Edgar Morin, 95 ans, et que nous recevrons à nouveau en 2017, ne peut être que mélange avec la folie. Amour, je retiens cette définition si belle et si simple d'une femme, l'amour est quand l'autre est plus important que soi, et son mari d'ajouter, et réciproquement. Oui, je crois que l'amour est ce qui fait toucher du doigt les limites de l'être humain, et donc nos propres limites et notre fragilité. Texte, auteur de livres, nous en retiendrons, je le redis, 12 pour cette émission, musique choisie. Vous en trouverez toutes les références dans la note de synthèse qui accompagnera cette émission dès demain, 24 décembre à 18h, sur le site suivant www. Et en petit caractère et relié, art au pluriel, culture au pluriel, éducation au singulier.com/. Écoutez bien, le 24, vous aurez ainsi toutes les références. Nous allons donc faire un voyage en 7 étapes. 4 dans la première séquence, et après les informations, nous ferons la 5e, 6e et 7e, avec la surprise du 4e mot, un texte d'André de Peretti, 100 ans en mai dernier, qui nous a téléphoné juste avant l'émission pour nous dire qu'il était présent avec nous, et une chanson de Jacques Brel qui terminera cette émission. Je vous invite au voyage pour la première partie. Première étape, la France. Je voudrais ici reprendre un cri profond de Marcel Conche sur les enfants. Marcel Conche, 94 ans, l'un des philosophes français actuels les plus remarquables, que j'espère nous recevrons dans une prochaine émission. Pour Marcel Conche, la souffrance des enfants devrait être considérée comme un mal absolu. Plus largement, et au-delà de sa position, ce que vivent les enfants dans le monde relève d'un crime contre l'humanité, d'un crime protéiforme qui prend des formes différentes. Chaque jour, on retire aux enfants dans le monde leur enfance et donc la suite de leur vie. Oui, crime contre l'humanité, tout ce qui touche les enfants dans le monde. Pour cette première étape et courte étape en France, mentionnons Elie Wiesel, La Nuit. Ce livre extraordinaire à lire et à relire nous rappelle bien ce qu'était le drame d'hier, mais ce qu'est aussi le drame d'aujourd'hui. Deuxième étape, quelques données sur ces enfants dans le monde, justement. Est-ce que l'on sait, par exemple, qu'il y a 300 millions d'enfants dans le monde qui respirent l'air toxique ? Est-ce qu'on imagine ce qu'ils subissent au niveau de la faim et de l'absence de l'éducation ? Est-ce que l'on connaît la tragédie des enfants épouses, 10 millions par an dans le monde ? Est-ce que l'on sait la tragédie des enfants disparus, en Chine et ailleurs, le trafic d'organes ? Est-ce que vous avez lu un jour le rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde et qui paraît chaque année ? Et cela justifie que nous écoutions la première musique, la conjugaison du droit des enfants.
J'ai un nom, un prénom.
Tu,
c'est dire oui ou non.
Il
a le temps de jouer.
Elle
peut aussi rêver.
Nous
apprendrons à lire.
Vous
saurez tous écrire.
Ils
construisent leur destin.
Tout
va changer demain.
C'est la conjugaison du droit de tous les enfants. Au passé, au futur et bien sûr au présent. C'est la conjugaison du droit de tous les enfants. Au passé, au futur et bien sûr au présent.
C'est la conjugaison du droit de tous les enfants. Au passé, au futur et bien sûr au présent.
J'ai le droit d'avoir le droit de vivre mon enfance. J'ai le droit d'avoir le droit d'avoir un peu de chance.
J'ai le droit d'avoir le droit de vivre mon enfance. J'ai le droit d'avoir le droit d'avoir un peu de chance.
Il s'appelle Amadou, Mohamed ou Manitra.
Ils mendient, se battent contre la maladie,
la famine, la misère et même contre la guerre. Et ils dansent et ils rêvent les mêmes rêves que toi.
Qui s'appelle Amadou, Mohamed ou Manitra. Qui s'appelle Amadou, Mohamed ou Manitra.
C'est la conjugaison du droit de tous les enfants. Au passé, au futur et bien sûr au présent. C'est la conjugaison du droit de tous les enfants. Au passé, au futur bien sûr au présent. J'ai le droit d'avoir le droit de vivre mon enfance. J'ai le droit d'avoir le droit d'avoir un peu de chance.
J'ai le droit d'avoir le droit de vivre mon enfance. J'ai le droit d'avoir le droit d'avoir un peu de chance.
J'ai
un nom, un prénom.
Tu
sais dire oui ou non.
Il
a le temps de jouer.
Elle
peut aussi rêver.
Nous
apprendrons à lire.
Vous
saurez tous écrire.
Dans cette deuxième étape, outre la situation des enfants dans le monde, il convient de rappeler la situation des enfants en France. Écoutez.
En France, un enfant sur cinq est en situation de vulnérabilité affective et sociale. D'autres n'ont simplement pas la chance d'avoir un entourage familial en plus de leurs parents. En parrainant l'un de ses enfants, vous lui offrez un soutien affectif et une ouverture sur le monde. Vous l'aidez à grandir plus sereinement et à construire son avenir. Ensemble, vous partagez des moments de complicité et nouez une relation privilégiée.
Savez-vous que franceparrainage.org, allez sur Internet, vous trouverez facilement la documentation, fait un travail extraordinaire en France. Que vous soyez célibataire ou en couple, avec ou sans enfant, actif ou retraité, chacun d'entre nous peut devenir parrain ou marraine, de cœur à condition d'avoir envie de partager du temps avec un enfant. Des enfants et des jeunes de 3 à 18 ans, issus de familles fragilisées, soucieuses de leur offrir un nouvel horizon. Alors, si vous le désirez, si vous le souhaitez, voici un acte concret. Allez voir sur Internet franceparrainage.org. Et vous avez peut-être là, en cette fin d'année, un geste concret à faire pour les enfants les plus proches, ceux qui sont en France. Troisième étape, l'Amérique latine et plus précisément le Mexique. Le Mexique, ce merveilleux pays où nous réaliserons en 2017 une émission directement sur place. Paroles d'écriture et une autre émission, Femmes en humanité, que nous poursuivrons en Amérique latine. Mais écoutons cette légende.
La légende du poinsettia. C'était la veille de Noël. Tout au fond de l'église, Lola, une petite Mexicaine, tout en larmes, priait. S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. Comment pourrais-je montrer à l'enfant Jésus que je l'aime? Je n'ai pas la plus petite fleur à lui offrir pour mettre au pied de sa crèche. Soudain, il y eut un éclair brillant. Et Lola vit à côté d'elle son ange gardien. Jésus sait que tu l'aimes, Lola. Il voit tout ce que tu as fait pour les autres. Ramasse seulement ces plantes qui poussent sur le bord de la route. Mais ce sont de mauvaises herbes, s'écrie Lola. Les herbes qu'on appelle mauvaises sont seulement des plantes dont l'homme n'a pas encore découvert ce que Dieu veut qu'il en fasse, répondit l'ange dans un sourire. Lola entra dans l'église, les bras chargés de cette verdure disparate, et la déposa respectueusement parmi les autres fleurs qu'avaient apportées les habitants du village. Soudain, un murmure d'ébahissement parcourut la chapelle. Les mauvaises herbes de Lola étaient transformées en superbes fleurs rouges comme des langues de feu. C'est depuis ce jour que les poinsettias s'appellent au Mexique « fleurs de la Sainte Nuit ». Les Français, eux, connaissent les poinsettias sous le nom d'étoiles de Noël. C'est aussi le nom que lui avaient donné les Aztèques. Si l'on en croit la légende, les bractées du poinsettia furent imprégnées du sang d'une déesse aztèque morte d'un chagrin d'amour. Ce drame expliquerait sa couleur rouge caractéristique.
Écoutons ce chant mexicain merveilleux de fête, la posada.
San Marceliano, San Tintanillo,
ya se murió.
Santa Columbia,
ruega por nosotros.
San Navagán, cielo, yo te pido posada, pues no puede andar mi esposa amada.
Ya, ¿qué te pasó tú? ¿Qué pasó?
Traía atorado un pero ya me salió.
Adelante.
Aquí no es mesón, sigan adelante, pues no le de abrir, no vaya a ser un tunante. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón.
Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón.
Echen confites y canelones pa' los muchachos que son muy dragones.
Echen confites y canelones pa' los muchachos que son muy dragones.
Entren santos peregrinos, peregrinos.
Castaña asada, piña cubierta, echen a pasos a los de la puerta.
Quatrième et dernière étape de cette première séquence, nous continuerons après les informations tout à l'heure, car nous avons cette étape. Quatrième étape, l'Afrique. L'avenir se joue en Afrique, nous réaliserons une émission spéciale, Paroles d'écriture, au mois de mars-avril l'an prochain, en 2017, pour mettre en valeur ce fait que nous oublions tous, l'avenir se joue en Afrique. Plus récemment, le journal Le Monde a mis en valeur cette chance inespérée qu'il y a pour l'Afrique, les femmes africaines. Écoutez ce que nous dit Le Monde. Les Africaines sont plus fiables que les hommes pour rembourser leur microcrédit. Elles créent plus d'entreprises, sont moins concernées par les affaires de corruption et consacrent une plus grande part de leurs revenus au bien-être de leurs enfants et de leur communauté. Pourtant, elles continuent de subir une discrimination juridique et sociale en matière de propriété foncière, de succession, d'instruction, d'accès au crédit et aux technologies, sans parler des violences dont elles sont les premières victimes, en particulier les violences sexuelles. Mais la pleine expression des ressources de l'Afrique dépendra du développement et de l'enseignement, de la liberté et des possibilités d'emploi en faveur des femmes. Alors, femmes africaines, bravo, vous rejoignez cette série que nous avons ouverte « Femmes en humanité » et au passage, ce numéro spécial de Marianne qui vient de se sortir pour rendre hommage par ailleurs aux femmes. Voilà, comment concevoir l'avenir du monde sans les femmes, quel que soit le continent, mais là, plus précisément, les femmes africaines. Écoutons cette musique, ce chant « Les enfants de la terre ».
Les étoiles brillent dans le ciel. Une planète bleue dans l'univers. Des milliards
Poursuivons notre voyage Écho du Monde. Cinquième étape, Moyen-Orient. Zone de guerre, de conflit, de barbarie, où continue de se jouer le devenir du monde. Mare Nostrum, devenu pour combien de temps cimetière? Alep. Je vous recommande le très beau numéro de l'hebdomadaire Le 1, cette semaine, c'était Alep. Très beaux ouvrages aussi publiés par les éditions Le Soupirail, dont certains du Moyen-Orient. En particulier ce livre de Mahmoud Chokrolaï, né en Iran, et cette phrase « Entre mes rêves et moi, s'est creusé un fossé aussi profond que ma solitude ». Sixième étape, Orient. Nous sommes dans une époque de métamorphose profonde et de prise de conscience d'un manque qui ne relève pas de besoin, mais du désir. Pour cela, l'Orient est une source extraordinaire. Arrêtons-nous en Inde pour deux auteurs. Rabindranath Tagore, je me souviens. Chez mes parents, dans l'ouest de la France, il n'y avait qu'un livre, un missel. C'est vraiment par hasard, comme adolescent, que j'ai découvert Tagore. Il ne cesse de m'accompagner. Né en 1861, Tagore nous a quittés en 1941. Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir cet auteur qui a écrit pour le XXIe siècle. Voici un de ses textes très brefs.
Tu m'as grandi de ton amour, moi qui ne suis qu'un homme parmi les autres, flottant dans l'ordinaire, courant, agité au gré de la changeante faveur du monde. Tu m'as donné place là où les poètes de tous les temps apportent leurs offrandes, où les amants, au nom impérissable, se saluent l'un l'autre à travers les âges. Des hommes pressés passent devant moi au marché, sans remarquer comme mon corps est devenu précieux de ta caresse, sans savoir qu'en moi, je porte ton baiser, comme le soleil porte en son ombre le feu du divin touché, dont il brille à jamais.
L'autre auteur est Krishna Murthy. Né en Inde en 1895, il nous a quittés en 1983. Beaucoup de ses ouvrages, comme Apprendre et l'essence de la vie, sont publiés en livre de poche. Je vous recommande beaucoup cet auteur si vous ne le connaissez pas. Allons plus loin dans l'histoire de l'Orient, pour retrouver Confucius, environ 400 ans avant Jésus-Christ, Lao Tzu et Lie Tzu, trois petits ouvrages dans la série Folio de poche, présentés dans un joli coffret. Là aussi, un très beau cadeau, à défaut de Noël, pour le premier de l'an. Mais ce soir, retenons cette citation d'un conseiller d'un empereur. Si tu veux maîtriser le monde, point besoin de guerre, la corruption et l'absence d'éducation suffiront. Septième et dernière étape, retour en France. Nous allons vers la 17e année de ce troisième millénaire. Guerre, violence, haine sont toujours présents dans le monde. Et dans notre quotidien, qu'en est-il? La politique tue le politique. C'est pourquoi je vous invite à écouter ce passage extraordinaire de Jean Gabin sur la politique.
La parole est à Monsieur le Président du Conseil.
Messieurs, Monsieur Chalamont vient d'évoquer en termes émouvants les victimes de la guerre. Je m'associe d'autant plus volontiers à cet hommage qu'il s'adresse à ceux qui furent les meilleurs de mes compagnons. Au moment de Verdun, Monsieur Chalamont avait 10 ans, ce qui lui donne par conséquent le droit d'en parler. Étant présent sur le théâtre des opérations, je ne saurais prétendre à la même objectivité. On a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. Monsieur Chalamont parle d'1,5 million morts. Personnellement, je ne pourrais en citer qu'une poignée. Tombez tout près de moi. J'ai honte, messieurs. Mais je voulais montrer, monsieur Chalamont, que je peux moi aussi faire voter les morts. Le procédé est assez méprisable, croyez-moi. Moi aussi, j'ai un dossier complet, 300 pages. 300 pages de bilan et de statistiques que j'avais préparées à votre intention. Mais en écoutant monsieur Chalamont, je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Les chiffres parlent, mais ne crient jamais. C'est pourquoi il n'empêche pas les amis de monsieur Chalamont de dormir. Ouais. Permettez-moi, messieurs, de préférer le langage des hommes. Je comprends mieux. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans les cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité les mines. J'ai vu la police chargée des grévistes, je l'ai vu aussi chargée des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Et bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt. C'est faux! Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement.
Monsieur le Président, je vous demande la permission de vous interrompre.
Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. Si cette Assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forge et des compagnies pétrolières. Cette Europe qui a l'étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe. Car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateurs.
La France de 89 avait une mission civilisatrice à remplir.
Et quelques profits à en tirer.
Il y avait des places à prendre. Le devoir de la France était de les occuper, pour y trouver de nouveaux débouchés pour son industrie, un champ d'expérience pour ses armes.
Et une école d'énergie pour ses soldats, je connais la formule. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf, évidemment, pour quelques affairistes en quête de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt.
Une double hélice interagit, comme le dit André de Peretti dans son ouvrage « La double hélice des civilisations ». L'une est négative à visée destructive, l'autre est positive à visée créatrice. Seul l'optimisme de résistance et de création peut, dans un combat quotidien, incarner cette citation de Teilhard de Chardin, « Tout ce qui monte converge ».
Que signifie « apprivoiser » demande le petit prince. Une chose trop oubliée, dit le renard. Créer des liens. Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Pour que notre rêve fonde notre vie, il convient en permanence de débusquer et de combattre les illusions. Et d'abord celle-ci. Mon rêve n'est-il qu'une illusion ?
Voici pour finir ce texte d'André de Peretti, spécialement écrit pour cette émission. Merci André, et bon chemin vers vos 101 ans en 2017. C'est futur déjà parmi nous, pour quel devenir ? Le devenir n'est-il pas toujours paradoxal, nanti de prévisions sûres et d'hypothèses ambiguës, sinon contradictoires et incertaines ? Et que nous apporte le futur, sinon la croissance d'automatismes, ainsi que la disposition accélérée d'informations et d'échanges, ou de mise en projet, plus précisément de mise en programme ? Et le présent nous offre simultanément des rapprochements respectueux entre des valeurs. Et des fois, jadis en conflit, mais de plus en plus élevé vers un œcuménisme mondial en son rassemblement de recueillement, comme San Egidio à Assise. Mais l'avenir semble devoir s'épanouir dans les relations intercivilisations, pour lesquelles s'entrelacent les variétés d'un système de services réciproques. Chacun appelé à offrir et à recevoir ce qu'il souhaite partager en contrepartie de ce qu'il peut proposer. Chacun et tous. Le devenir semble disposé à permettre aux hommes de comprendre et d'historiser le monde dans l'évolution de ses évolutions et ses démarches vers l'un. Enfance, sagesse, amour. Oui, l'alliance et l'harmonie de ces trois mots. Pour cela, seul le politique, d'abord et non la politique, peut nous conduire à construire un monde plus humain, et en proximité, et en humanité, et demain dans le cosmos. Quatre mots qui portent, si nous le voulons, notre devenir. Alors je formule le vœu que le « je veux » de chacun s'incarne pour l'enfance, la sagesse, l'amour et le politique. Avec cette chanson de Jacques Brel, et si c'était vrai, je souhaite à chacun de très belles fêtes. La fête est réjouissance et peut l'être dans toutes les situations, surtout avec l'autre et pour les autres, si sans oublier vrai, tous les échos du monde.
S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable, dites, si c'était vrai. Si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin, pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens, dites, si c'était vrai. Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres, dites, si c'était vrai. Si c'était vrai le coup des noces de Cana et le coup de Lazare, dites, si c'était vrai. Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits-enfants le soir avant d'aller dormir, vous savez bien, quand ils disent « Notre Père », quand ils disent « Notre Mère ». Si c'était vrai tout cela, je dirais oui. Oh, sûrement, je dirais oui. Parce que c'est tellement beau tout cela, quand on croit que c'est vrai.
Voilà, écho du monde, avec cette fin, avec cette chanson de Jacques Brel. Cette émission, vous pourrez l'entendre demain, 24 décembre, à partir de 18h, et avec la note de synthèse, vous aurez les 12 auteurs que j'ai choisis, et toutes les informations sur les musiques, sur le site www.culture-education-. Je voudrais finir cette émission par une poésie, celle d'Yves Martin Guillou. L'enfant, il aborde la vie avec avidité, pose plein de questions, s'étonne et veut comprendre. Il conçoit la planète comme un grand berceau tendre où des adultes sages gouvernent les cités. Résolu, mais sensible, il ne cesse de défendre contre les injustices et les méchancetés. Il fait confiance à tous dans sa crédulité, au prix de déception qui laisse un goût de cendre. Le foyer familial lui réchauffe le cœur, car en ce lieu douillet d'harmonie, de douceur, le sourire des autres est un bonheur grisant. Ce bonhomme naïf, étonné, curieux, cet enfant, c'est bien moi. Il a quel âge? Ne cherchez pas mon âge, j'ai tous les âges. Nous allons pouvoir prendre notre temps et écouter pleinement ce qui sert de leitmotiv à notre émission dans un instant. Je vous donne rendez-vous avant en janvier, les vendredis 27, le lundi 30 et le mardi 31, trois émissions en janvier, dont une sur Gaston Bachelard qui sera vraiment tout à fait passionnante et très originale. Ce personnage qui a façonné le XXe siècle et surtout la deuxième partie m'a personnellement beaucoup marqué, a marqué beaucoup de personnes. Il est par ailleurs inconnu de d'autres. Eh bien, nous découvrirons ensemble cet homme qui a élevé seul sa fille, puisqu'il se retrouvait rapidement seul, qui a commencé à la poste et qui est devenu un professeur d'université les plus reconnus à la Sorbonne, est un poète, un écrivain, quelqu'un qui a touché à tout, un scientifique, mais aussi un pédagogue et un humaniste. Alors que se termine cette émission, je voudrais redire un merci très fort à Philippe qui, en coulisses, est le technicien qui nous assure la qualité du son, et à Anna qui, à chaque fois, m'aide à préparer cette émission, et surtout ce soir. Merci, chers auditeurs, et très très belle fête.